Il est midi, c'est l'heure de connecter votre cerveau à l'Hippocampe, présenté par Fabien Olicard.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'Hippocampe, le podcast où votre cerveau trempe le midi, diffusion en direct, diffusion en même temps sur toutes les plateformes de podcast, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Je vous invite, où que vous m'écoutiez, à vous abonner et pourquoi pas à laisser aussi une note, un petit commentaire. C'est ça qui fait connaître le podcast, hein. C'est la joie des algorithmes, faut les nourrir, donc je compte sur vous. Aujourd'hui, on va donc parler de cette manipulation perpétuelle dans laquelle on peut faire partie. Ça s'appelle le triangle dramatique de Cartman. Vous allez voir, c'est juste passionnant. Alors, j'espère déjà que vous allez bien. On n'a pas encore repris les interviews, mais j'ai bien reçu toutes vos inscriptions dans le formulaire que vous pouvez trouver dans la description. En fait, dans la description de ce podcast, où que vous m'écoutiez, il y a ce qu'on appelle un Linktree. C'est un lien qui comporte tous les liens qui peuvent vous intéresser concernant l'Hippocampe, y compris ce formulaire sur lequel vous pouvez vous inscrire pour participer avec moi à une prochaine émission d'une heure où on parle de ce que vous faites dans la vie, de ce que vous entreprenez, on peut dire ça comme ça, et pourquoi pas aussi des problèmes que vous avez à résoudre. Alors, moi, je n'ai pas la réponse à tout. Par contre, je peux discuter comme un bon ami et des fois, on dégage des pistes qui sont intéressantes. Mais aujourd'hui, je vous ai dit, on va parler du triangle de Cartman, le triangle dramatique de Cartman qui est très intéressant au niveau de la manipulation. Alors, manipulation, soit que l'on subit, soit que l'on déclenche soi-même sans s'en rendre compte. En 1968, le docteur américain Stephen Cartman, qui était psychiatre, a établi une sorte de modèle théorique qui a provoqué un bouleversement dans notre connaissance des jeux manipulatoires. Malheureusement, son triangle n'est pas très connu aujourd'hui, en tout cas pas assez, je trouve. Pourtant, on dit que son triangle dramatique, c'est un peu la théorie de la relativité, de la gestion de conflits. Donc avoir cette connaissance, ça change profondément votre rapport à la manipulation, que vous en soyez la cible ou l'instigateur inconscient. C'est-à-dire vous créez vous-même ce triangle de manipulation, même si vous n'avez pas de mauvaises intentions. En gros, ce triangle fonctionne pour un nombre illimité de personnes, que ce soit entre deux personnes, entre trois personnes, entre plusieurs groupes de personnes, quand il y a beaucoup de personnes impliquées, par exemple plus de centaines, on dit alors qu'il y a des groupes à l'intérieur. Et c'est une sorte de triangle équilatéral où on retrouve un persécuteur, un sauveur et une victime. Et on a tendance, naturellement, et notre cerveau fonctionne comme ça, on a tendance à se placer dans l'un de ces trois rôles, soit nous-mêmes, soit on se fait placer dans un des trois rôles par l'autre. Donc chacun est à égale distance, chaque rôle est à égale distance de l'autre, et pendant un même conflit ou une même conversation ou un même rapport, on peut changer de rôle soi-même sans s'en rendre compte. Ce sont ce qu'on appelle des étiquettes indicatives, parce que ça peut switcher dans la conversation, le problème n'étant pas tellement le rôle dans lequel vous êtes le plus longtemps, mais le problème étant toujours dans ce triangle et donc dans l'un des trois rôles. Et il faut absolument s'extirper de ce triangle. Alors pourquoi ? Et comment ça fonctionne ? La victime, tout d'abord, elle se plaint de subir quelque chose. Elle constate son sort, qu'est triste, qu'est malheureux, etc. Le persécuteur, lui, va plutôt faire des commentaires cinglants ou ironiques sur les autres. Il va plutôt critiquer que de chercher à valoriser. Et le sauveur, quant à lui, ne peut pas s'empêcher de vouloir aider, de vouloir trouver la solution, voire limite d'empêcher l'autre de trouver sa propre solution par lui-même. Et il y a le psychiatre américain, et qui a été le créateur d'ailleurs de l'analyse transactionnelle, Eric Berne, qui a distingué quatre mythes. Alors les mythes, ce sont des légendes qui sont ancrées dans l'esprit des personnes qui sont à l'intérieur de triangles, et ces légendes, inconsciemment, ils y croient vraiment. Ils vont agir en conséquence de ça. Pour l'anecdote, Eric Berne était le professeur de Stephen Cartman, qui a donc inventé le triangle dramatique. Voilà ces quatre mythes, et après je vous détaillerai du coup les rôles et surtout comment sortir de ces rôles. Le premier mythe, c'est « j'ai le pouvoir de rendre les autres heureux ». Ça, c'est une croyance, c'est un mythe, une légende de sauveur. Et ce sauveur, pour pouvoir rendre les autres heureux, il va avoir besoin d'une victime pour faire vivre son mythe. Et c'est pour ça qu'un sauveur peut créer ce triangle de manipulation. Parce que pour avoir l'impression d'être utile, il va devoir transformer les autres en victimes. La deuxième légende, c'est « les autres ont le pouvoir de me rendre heureux ». Ça, c'est justement une croyance de victime qui va du coup avoir besoin d'un sauveur pour faire vivre son mythe, en fait. C'est-à-dire « j'ai besoin des autres en permanence ». Et encore une fois, ce sont des mythes et des légendes inconscientes dans le cerveau. Le troisième, c'est le pouvoir de rendre les autres malheureux. Ça, c'est une croyance de persécuteur qui va du coup avoir besoin d'une victime pour faire vivre son mythe. Alors, se dire soit inconsciemment « j'aime rendre les autres malheureux » ou alors, justement, inconsciemment toujours, de se dire « dès que je fais quelque chose, ça rend les autres malheureux ». Et ça, c'est un seul et même mythe qui vous met dans une position de persécuteur. Et le dernier, c'est « les autres ont le pouvoir de me rendre malheureux ». Ça, vous l'avez compris, c'est aussi une croyance de victime qui va avoir besoin de créer ses persécuteurs pour faire vivre son mythe. Donc, avant d'aller plus loin, rappelez-vous que être dans l'un de ces rôles, victime, sauveur ou persécuteur, ce n'est pas bon ni pour vous ni pour les autres. Même quand on est sauveur, même quand on est persécuteur, il n'y a pas un rôle qui est correct à l'intérieur de ce triangle. Et c'est ça qui est un petit peu dur à admettre. Parce que ça nécessite d'identifier son rôle à chaque souffrance, on va dire, à chaque fois qu'on sent que c'est pas la conversation qu'on aimerait avoir, c'est pas la situation qu'on aimerait vivre. Et une fois que vous avez identifié votre rôle, vous pouvez sortir assez vite pour votre bien, mais aussi pour le bien des autres. C'est un jeu complètement malsain. Alors, pour ne plus être la victime, si vous pensez être dans ce rôle-là, vous pouvez commencer par imaginer ce qui se passerait si plus personne ne s'occupait de vous, si plus personne ne vous aidait ou ne vous critiquait. Ensuite, il faut admettre que le changement ne peut venir que de vous, et ça c'est très compliqué quand on est en victime, on l'a tous vécu, de se dire « ok, ça dépend de moi », même si on arrive à pointer du doigt la faute qu'ont mis les autres, il faut admettre que quoi qu'il arrive, il faut se responsabiliser à ce moment-là, et donc parfois prendre le risque de se confronter à certains problèmes. Et cesser d'être une victime, ça ne veut pas dire couper les ponts d'ailleurs avec tout le monde, hein. Vous pouvez être épaulé par d'autres personnes, mais ça doit être un soutien, ça ne doit pas être la prise en charge intégrale. En fait, au final, quand on est dans le rôle de la victime, au sein d'une relation donc, deux à deux ou à plus de personnes, parce que être, je vous le rappelle quand même, être dans un rôle, c'est dans un instant donné, hein, si ça se trouve 5 minutes après, vous n'êtes plus dans le rôle de victime, mais quand on est dans ce rôle-là, on n'a pas forcément envie que les choses évoluent. Et c'est ça le piège. Lorsque quelqu'un nous persécute ou nous prend en charge, on se sent exister et c'est pour ça que notre cerveau nous laisse un petit peu là-dedans. Ne plus être le sauveur, alors ça c'est encore autre chose. Si vous pensez être dans le rôle de sauveur, vous pouvez commencer par vous demander si vous avez la compétence pour aider et si vous avez vraiment envie d'aider l'autre personne. Ensuite, vous pouvez vous demander aussi ce qui se passerait si vous n'aidiez pas. En fait, et pourquoi c'est si important pour vous de le faire? En général, vous allez constater qu'il s'agit plus souvent de nourrir votre ego que de l'altruisme. Et ça aussi, c'est un petit peu dur à accepter. Donc, en gros, demandez-vous toujours, est-ce qu'on m'a demandé de l'aide? Est-ce que j'ai envie d'aider? Est-ce que je suis compétent pour le faire? Ça, c'est très important. Et en fait, pour plus être le persécuteur, si vous pensez être dans ce rôle-là, en général on s'identifie rarement comme persécuteur, commencez déjà par vous demander si vous n'êtes pas en train de reprocher aux autres ce que vous voudriez vous reprocher parfois à vous-même. Est-ce que vous ne servez pas des autres comme un miroir? Ensuite, vous pouvez vous demander si vous n'essayez pas simplement de contrôler votre environnement, si vous n'avez pas juste peur du changement pour oublier entre autres que vous êtes vous-même imparfait. Ça peut être l'une des raisons. Arrêter d'être persécuteur, ça ne veut pas dire d'ailleurs que vous ne devez plus avoir de caractère, hein. c'est pas ça, hein. Vous devez garder votre confiance. Seulement, votre confiance en vous, ça ne doit pas dépendre de la souffrance d'un autre ou d'une confrontation avec un sauveur pour exister. Maintenant qu'on a établi ces trois rôles, heureusement, il existe son antagoniste, le triangle dramatique. Cartman l'a appelé le triangle vertueux. C'est le challenger, le coach et le créateur. En gros, il a établi trois rôles. Et ces trois rôles, si vous vous identifiez en victime, en sauveur ou en persécuteur, vous allez essayer de vous transformer dans le rôle opposé. En gros, si vous êtes, d'après vous, la victime dans un instant donné d'une relation, d'une conversation, vous devez commencer par reconnaître votre vulnérabilité, votre souffrance, faire un point très sincère et très honnête sur la situation pour déterminer votre propre part de responsabilité, hein, pas forcément dans la cause de la situation, mais dans le fait de pouvoir la faire évoluer. Et vous passerez alors du rôle de créateur qui se connaît, enfin du haut rôle de créateur qui se connaît et qui reconnaît qu'il n'est pas invulnérable, mais qui décide d'être et d'agir comme quelqu'un de responsable, qui sait demander de l'aide, mais uniquement quand c'est nécessaire et qui formule des demandes concrètes. Donc la victime, cherche à passer dans le rôle de créateur, quelque chose de beaucoup plus responsable. Si au contraire vous vous êtes identifié en sauveur, alors là vous devez aiguiser en quelque sorte votre capacité à distinguer une vraie demande d'aide de votre espèce de réflexe à prendre les choses en charge. Et là du coup vous passez dans le rôle de coach, donc de sauveur à coach, et le coach en fait s'établit parce qu'il connaît ses compétences, il connaît surtout ses limites, et il sait, encore une fois, attendre une demande explicite d'aide de la part de l'autre. Ensuite, quand il reçoit cette demande, il va vérifier s'il a vraiment envie de l'aider. Et il sait tout de suite s'il est compétent ou non pour le faire. Et le cas échéant, il reconnaît qu'il ne l'est pas. Et enfin, si vous avez un doute, que vous êtes identifié au rôle de persécuteur, là aussi, il y a un changement possible, c'est celui du challenger. Vous allez améliorer votre manière de communiquer pour être capable d'assumer vos opinions, de vous défendre même en cas d'injustice, mais avec comme limite de ne jamais réduire la liberté des autres. Là, vous allez passer dans le rôle de challenger. Le challenger, c'est quelqu'un qui a l'écoute, qui cherche à comprendre les difficultés des uns et des autres. Il n'hésite pas à énoncer des pistes de réflexion ou d'amélioration, mais sans jugement. C'est constructif, c'est fait avec bienveillance, aussi bien dans le fond que dans la forme. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le triangle dramatique a trois rôles, victime, sauveur et persécuteur. Le triangle vertueux a trois rôles opposés qui permettent de sortir et de s'extraire du triangle dramatique, qui sont le créateur, le coach et le challenger. C'était très important de faire un épisode dessus parce que dans la vie personnelle mais aussi professionnelle, on est souvent confronté à des conversations comme ça avec ces trois rôles, que ce soit avec ses collègues, les personnes qui nous sont hiérarchiquement supérieures, voire même en dessous de vous. Ça peut être aussi des clients, les relations de travail. Dans pas mal de domaines, en fait, les conversations tournent en rond parce que ça reste dans ce triangle-là de la manipulation. Donc je trouvais ça intéressant de faire un épisode dessus. N'hésitez pas à réagir dessus d'ailleurs en mettant vos commentaires, alors principalement sur SoundCloud si vous voulez que j'y réponde dans un autre épisode, mais sinon sur toutes les plateformes, je passerai les lire de temps en temps. Ça m'inspire aussi personnellement pour les prochains sujets. J'espère que ce premier épisode sur la manipulation vous a plu, il y en aura d'autres, et puis prenez soin de vous. Moi je vous donne rendez-vous du coup mardi prochain à midi pour le prochain Hippocampe. Vous savez que ce podcast, hein, l'Hippocampe, j'en parle pas sur mes autres réseaux comme YouTube, etc. Donc pour le faire connaître, ça ne dépend que de vous. C'est vous qui êtes mes représentants si le format vous plaît vraiment. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.
L'Hippocampe, faites tremper votre cerveau à midi, le mardi et le vendredi, en direct sur Storm et à 13h sur toutes les plateformes.